Bonjour à tous, bienvenue sur Boomerang pour un nouveau numéro de Interview et Hit. Alors aujourd'hui, je vous propose une interview téléphonique avec le journaliste Maxime Switek qui nous parlera du 20h BFM. Mais avant tout cela, place à un gros tube de l'année 2013. Je vous propose Petit Biscuit Iceland.
Bye. stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
Regulators! Mount up!
It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you skirts know what's up with 213.
So I hooked a left on 21 and Lewis, some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gats, so I said, I'm stuck.
Since these girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix.
I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next?
They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down.
They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town.
If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate.
16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb.
Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G.
Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. Sexy as hell, I said, ooh, I like your size. She said, my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.
G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level.
The rhythm is the bass. Whoa. And the bass is the treble.
Chords, strings, we brings melody. G-Funk,
where rhythm is life, and life is rhythm.
If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. You smoke like I smoke, then you high like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse.
Un peu de love et de tendresse,
sans sentiment. Tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse.
Très bon titre d'Eddie de Preto, Love and Tendress sur Boomerang. Alors sachez que la société JM France Hauts-de-France recherche de jeunes talents âgés de 13 à 21 ans, tous styles musicaux confondus, pour représenter les Hauts-de-France lors de la finale nationale Imagine France. Alors en fait, cet événement a pour objectif de favoriser les rencontres entre jeunes artistes amateurs et leur offre l'opportunité de jouer en conditions professionnelles devant un public à Paris puis à l'international. Alors si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur leur site internet jmfrance.org. Et sachez également que le mercredi 30 avril à 17h30, il y a Mathias Malzieux, auteur, compositeur, interprète du groupe Dionysos, qui sera l'invité de la FNAC de Lille pour une rencontre suivie d'une séance de dédicace autour de son tout nouveau roman « L'homme qui écoutait battre le cœur des chats ». Allez, voici l'interview téléphonique avec le journaliste Maxime Switek. Et juste après cette interview, on s'écoutera Christopher Cross, Pascal Obispo et Nathalie Imbruglia.
Grégory Lukasik sur Boomerang.
Voilà, je suis avec le journaliste Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors d'abord, comment ça va?
Super, et vous?
Très très bien. Alors en fait, du lundi au jeudi, vous présentez de 20h à 22h le 20h BFM. Donc c'est un grand JT façon chaîne généraliste, accompagné en plateau par des experts. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Alors, mes experts, mes acolytes, y en a trois. C'est Elsa Vidal, qui est spécialiste des questions internationales, que vous avez beaucoup vu, notamment pendant au début de la guerre en Ukraine, mais qui travaille sur ces questions-là, sur les questions aussi bien en Ukraine, au Proche-Orient, etc., depuis des années et des années. Oui. Pour la politique, c'est Christophe Barbier, que l'on ne présente plus, et Guillaume Daret, qui nous a rejoint il y a quelques mois maintenant et qui arrive de France Télé. Et pour l'économie et la consommation, c'est Amélie Rosic,
oui.
Qui est reporter depuis quelques années à RMC et BFM, et qui depuis 3 ou 4 ans bosse beaucoup sur ces questions-là, notamment les questions de consommation. Donc ça, c'est mes trois experts. En plus, on a une reporter à nous, oui, qui s'appelle Rebecca Blanc-Lelouch, qui est sur un point différent toutes les semaines. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, elle était à Calais. Et je bosse aussi avec Lisa Adef.
Oui.
Lisa, c'est elle qui présente le journal de 21h, et c'est elle qui est d'une certaine manière la porte-parole des téléspectateurs, parce que tout le monde peut participer aux 20h. En envoyant des questions, et c'est Lisa qui relaie les questions à l'antenne.
Et alors justement, est-ce que c'est vous qui les avez choisis ou alors on vous les a imposés?
Non, on m'a rien imposé. Non, c'est alors il y a beaucoup de gens avec qui j'avais déjà travaillé,
oui.
Et avec qui j'avais envie de retravailler. Elsa, Christophe, Lisa, enfin voilà, je les connais depuis des années et j'avais très envie de rebosser avec eux. Amélie, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais moi je voyais ce qu'elle faisait sur notre antenne, sur RMC depuis pas mal de temps. Et donc j'avais très envie de l'avoir dans l'équipe. Et Rebecca, elle est plus récente, elle est plus jeune. Rebecca, c'est la Benjamin de l'équipe, mais hyper prometteuse. Et donc on avait envie qu'elle fasse aussi partie de l'aventure.
Et justement, en quoi les sujets traités sont différents des chaînes généralistes ?
Les sujets en eux-mêmes, ils sont pas forcément très différents. Parce que on part tous de la base qui est l'actualité avec des grands autour de l'international, de la politique. Nous on fait pas mal d'économie, de consommation, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les caddies de ceux qui nous regardent.
Ouais.
D'une certaine manière, tous les grands JT bossent sur la même matière. Là où nous on apporte notre différence, c'est sur la manière dont on traite les sujets. On s'est réparti les rôles. Moi, je suis là pour raconter l'actu,
oui.
Pour raconter ce qui s'est passé, raconter ce qui s'est dit, montrer les images aux téléspectateurs, etc. Et mes camarades qui sont avec moi tous les soirs, ils sont là pour décrypter cette actu. C'est-à-dire que dans un journal, généralement, vous avez une suite de reportages et vous avez assez peu de décryptage, on vous explique assez peu les choses.
Oui.
Et nous, notre parti pris, c'est ça, c'est de dire que immédiatement, quand on vous donne une info, on essaie de vous expliquer pourquoi il s'est passé ça, comment il s'est passé ça, qu'est-ce qui peut se passer après. Nous, tout de suite, on a voulu avoir ces deux degrés-là. Moi, je raconte l'actu et eux, ils la décryptent pour les téléspectateurs.
Alors justement, quand on présente un JT, est-ce qu'on peut rester soi-même ?
Ah ouais, je crois.
Ouais.
En fait, non, mais oui, je crois parce que avec les années,
oui.
On oublie les micros et les caméras. Je m'entends quand je dis on oublie, évidemment, c'est tout ce qu'on a à la télé et il faut faire gaffe et voilà.
Oui.
Mais en fait, plus on avance, enfin, en tout cas moi, c'est comme ça que je le ressens, plus j'avance, plus je suis naturel et moins il y a de différence entre celui que vous avez aujourd'hui au téléphone et celui qui est en plateau, à l'antenne de BFM. Comment dire, s'il y a quelque chose qui nous fait rire ou qui me fait rire, on va éclater de rire et j'ai aucun problème avec ça.
Oui.
S'il y a des choses, et ça m'est arrivé, qui sont tristes, parfois, voilà, on peut être extrêmement ému. Enfin, il faut... il faut pas qu'on s'effondre en larmes tous les soirs ou qu'on soit hilar tous les soirs,
oui.
Parce que ce sera insupportable à regarder. Mais il faut évidemment, montrer un peu plus de soi et montrer aux téléspectateurs qu'on est comme eux, qu'on réagit face à ce qu'on raconte.
Alors en fait, j'ai vu que vous aviez déclaré c'est l'émission la plus commentée que j'anime depuis que je suis à BFM. Comment vous l'expliquez justement ?
Parce que c'est un 20h. C'est très simple.
Oui.
Quand on, avec Fabien Lamias, on a eu l'idée en fin d'année 2024 de lancer ce 20h, on savait que ça allait faire causer parce que BFM n'était pas dans cette course-là. On n'était jamais allé dans la concurrence frontale avec les grands 20h, TF1, France 2. Enfin, c'était pas une heure où on avait un journal, nous. Et donc, on savait très bien qu'en allant dans cette course-là, ça allait être commenté. Mais ça a été au-delà de ce que j'ai imaginé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'intéressait à nous.
Oui.
On a eu beaucoup de presse et le fait que vous m'appeliez aujourd'hui, c'est la preuve encore que le 20h, ça reste un rendez-vous mythique, ça reste un carrefour mythique, ça reste un carrefour hyper populaire d'infos à la télé.
Oui.
C'est pour ça que on a eu des articles absolument dans toute la presse et que les gens se sont dit tiens, BFM qui se lance là-dedans, mais comment est-ce qu'ils vont renouveler le genre, comment est-ce qu'ils vont faire différent des autres. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que bah, maintenant, ça fait 3 mois, alors 3 petits mois, mais 3 mois quand même.
Oui.
Et on voit que ça marche. Donc c'est génial comme ça, quand vous lancez un rendez-vous et qu'au bout de 3 mois, vous voyez que, bah, comme on dit, les audiences de la case progressent, qu'il y a de plus en plus de monde qui vient, que chaque semaine ou chaque mois, on fait mieux que le mois précédent. Enfin voilà, c'est hyper grisant, c'est hyper, hyper stimulant.
Et justement, est-ce qu'il y a une ou plusieurs critiques, qui, par rapport à cette émission qui vous ont, qui ont pu vous blesser?
Je cherche. Non, pas vraiment, parce que on a été plutôt bien accueillis, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y avait d'interrogations pour voir effectivement ce qu'on allait faire et comment on allait se débrouiller avec un 20h.
Oui.
Et en fait, les retours, mais dès le premier soir, des papiers qu'on a pu avoir tout de suite dans Le Parisien, Télérama, etc., qui sont un peu deux journaux qui s'adressent pas forcément au même public,
oui,
étaient plutôt bienveillants à notre égard. Mais parce que je pense que les journalistes qui nous ont regardés se sont dit, tiens, bah, ils font de l'actu, ils font vraiment de l'actu, il y a quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres. Enfin voilà, donc ça a été plutôt... Donc j'ai pas là en tête une critique où je me dis, la vache, c'est dur de nous attaquer comme ça, j'ai pas ça en tête.
Alors en fait, en face, il y a Pascal Praud qui présente l'heure des pros sur CNews. Alors est-ce que vous, ouais, avez réussi à lui piquer quelques téléspectateurs?
Je sais pas si j'ai réussi à lui piquer les téléspectateurs, mais je sais que il y a plus de téléspectateurs chez nous sur cette case-là qu'il y a quelques mois ou que l'année dernière. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait.
Oui.
C'est-à-dire, lui, il se débrouille. Il fait ce qu'il veut. En fait, honnêtement, on fait pas la même chose. Nous, on fait, voilà, un vrai 20h, avec des sujets, avec des reportages, où il y a beaucoup de terrain. Je suis pas sûr que ce soit exactement la tasse de thé de Pascal Praud. Donc voilà, je veux dire, chacun dans son coin.
Oui.
Mais effectivement, le fait de voir qu'on progresse, moi, ça me met en joie.
Et alors justement, quand on récupère la tranche du soir, est-ce que ça n'est pas la case la plus difficile pour se défaire justement de la concurrence?
Ah, c'est sûr que c'est une case qui est très concurrentielle, qui est très compliquée.
Oui.
Parce que c'est à la fois un moment, c'est le moment de la journée où il y a le plus de monde devant la télé,
oui,
des JT, des prime time, etc. Sauf que puisque c'est le moment où il y a le plus de monde devant la télé, c'est le moment où il y a le plus de concurrence, le plus d'émissions fortes. C'est-à-dire que nous, on a la concurrence, évidemment, des JT traditionnels, TF1, France 2, ils font à cette heure-là en cumulé une bonne dizaine de millions de téléspectateurs.
Oui.
Vous rajoutez les talks du genre Quotidien, Mes anciens camarades de C'est à vous, etc., qui vous prennent encore 3-4 millions de téléspectateurs. Enfin voilà, donc il y a une énorme concurrence. Donc c'est peut-être aussi pour ça que mon arrivée dans cette case-là était la plus commentée, parce qu'effectivement, c'était un vrai défi, c'est toujours un vrai défi, un vrai challenge, parce qu'il y a énormément de concurrence là-dedans.
Alors en fait, on va préciser que vous avez fait toute votre carrière radio sur Europe 1.
Ouais.
Alors qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais eu envie d'aller voir ailleurs?
je suis allé voir ailleurs, parce que j'ai commencé à Europe, après je suis allé à C'est à vous,
ouais,
et après je suis allé à BFM, donc je suis allé ailleurs. En radio, non, c'est vrai, même si j'ai bossé... J'ai bossé ailleurs en radio pendant quelques semaines ou quelques mois. J'ai bossé sur Info, j'ai bossé sur RFI à un moment donné, mais c'était des passages effectivement plus courts.
Oui.
Je sais pas, je suis plus fidèle en fait.
Oui.
Et effectivement, j'ai passé 14 ans sur Europe 1, j'ai passé 7 ans à C'est à vous. Là, je termine ma 5e saison sur BFM. Ben voilà, j'ai pas forcément la bougeotte en fait. Moi, j'aime bien être adoré.
Oui.
Et c'est vrai que, et là encore, quand, euh, quand ça fait 3 mois que vous avez lancé un nouveau rendez-vous, que ça marche bien, bah, vous n'avez pas tellement envie d'aller voir ailleurs et vous avez envie de renforcer encore l'émission. Donc ouais, je sais pas, je pense que je suis assez fidèle finalement.
Et sinon, Europa ne vous a pas proposé de revenir pour la rentrée?
Non. Non, pas du tout, pas du tout.
Et vous seriez intéressé pour revenir, à la radio?
À la radio un jour, pourquoi pas. En fait, bizarrement pour moi, c'est le même boulot, c'est le même métier. Enfin, je fais pas du tout de différence entre la radio et la télé. Moi, je travaille pareil, je prépare les émissions de la même manière, ouais. Les journaux de la même manière. Le truc qui est différent, c'est qu'il faut s'habiller et mettre une cravate, aller passer par la case maquillage. Et ne pas oublier qu'il y a des caméras. Mais comme maintenant en radio, il y a aussi beaucoup de caméras. Ben voilà, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même boulot en fait.
Alors justement, tout à l'heure, vous aviez parlé de C'est à vous. Vous ne regrettez pas d'être parti finalement?
Non, pas du tout. Moi, j'ai adoré cette année. C'était absolument incroyable. Ouais. C'est un des trucs les plus dingues que j'ai vécu parce que c'était pas de la télé, c'était juste une immense cour de récré et je garde des souvenirs absolument incroyables de ces 7 années avec Anne-Sophie Lapix, avec Babette Lemoine, avec Patrick Cohen, avec Pierre Lescure, avec tout le monde, et les plus anciens avec Mathieu Noël, avec Manu Maubert, avec Jérémy Michalak, j'ai rencontré plein de gens absolument incroyables. Je me suis éclaté là-bas pendant 7 ans.
Oui.
Le seul truc, c'est que le jour où je suis parti, on m'a remis un tableau avec le nombre de chroniques que j'avais faites. Et je crois que j'avais fait 1453 chroniques.
Ah oui.
Je pense que c'était le bon moment. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré ça.
Oui.
Mais je pouvais pas rester là toute ma vie. Il fallait que j'aille voir ailleurs, oui. Que j'aille découvrir d'autres choses. BFM, ça faisait 3 ou 4 fois qu'ils me proposaient de venir chez eux. Oui. Et je me suis dit, allez, on tente l'aventure. Enfin, j'avais envie d'un grand saut dans l'inconnu, d'un grand saut dans l'aventure. Et j'ai pas été déçu. Mais voilà, donc c'était génial. Et tous ceux que je vous ai cités de C'est à vous restent mes amis. Absolument à vie, il fallait aller voir ailleurs.
Alors justement, vous qui avez interviewé bon nombre de politiques sur BFM,
ouais.
Quel est celui ou celle qui a été le plus difficile justement à interviewer, ou alors celui qui a essayé de vous déstabiliser?
Le plus difficile, c'est Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai?
Ouais, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que bien souvent, dès la première seconde, c'est un rapport de force. Il installe un rapport de force tout de suite.
D'accord.
C'est pas toujours simple, quoi. Et parfois, ça monte très fort et il faut se faire respecter. Le plus difficile, je dirais même de loin, c'est quand même lui.
Et justement, quand on interviewe un homme politique ou une femme politique et qu'on ne partage pas justement ses idées, est-ce qu'on n'a pas envie de ne plus rester neutre?
Non, moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, en fait. Parce que quand vous préparez l'interview,
oui.
Moi, ma référence, mon problème, c'est parce que je pense, c'est qui fait l'actu. Et donc, mon obsession, c'est d'aller chercher des réponses sur ce qui fait l'actu et de voir quelles peuvent être les contradictions dans ce qui a pu être dit, ou simplement d'avoir la position de la personne sur ce qui a pu se passer, etc.
Oui.
Moi, mon souci, il est plus là que de devoir lutter contre mes a priori ou contre mes idées. C'est pas un problème, je trouve. On arrive tous en réalité à mettre ça de côté. Enfin, moi, je trouve.
Ouais.
Alors, il y en a qui ne le font pas, qui sont plus éditorialistes, etc. Et c'est très bien. Et il faut tout.
Mm.
Mais moi, c'est pas mon boulot. En gros, moi, j'ai toujours considéré que les téléspectateurs ou les auditeurs se contrefoutaient, mais alors éperdument de ce que je pouvais penser. Et je suis pas là pour dire ce que je pense. Et je suis pas là pour faire ressentir ce que je pense. Enfin, très honnêtement, je pense que c'est les gens s'en foutent, ce serait désagréable pour ceux qui nous regardent.
Oui.
Moi, c'est pas mon boulot, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est éventuellement là en interview d'accoucher les gens et de les mettre face à leurs contradictions ou face à leurs difficultés, etc. Mais ça va pas plus loin.
Alors en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Fabien Namias qui a succédé à Marc-Olivier Fogiel en tant que directeur général de BFM. Alors en quoi sa façon de travailler elle est différente?
Honnêtement, je sais pas si s'ils sont si différents dans l'approche, parce qu'en fait tous les deux sont très présents. Fabien, aujourd'hui, on va se parler 3, 4, 5, 10 fois dans la journée.
D'accord.
Pour caler les choses, pour savoir sur quel sujet on part, etc. Et avec Marco, c'était pareil. Marco, ça fait vraiment des années qu'on se connaît et qu'on bosse ensemble.
Ouais.
Mais c'est un peu la même chose. Ils ont tous les deux ce besoin d'être les deux mains dans le cambouis, d'être dans la rédac. Et d'ailleurs, physiquement, ils sont dans la rédac. Enfin, leur bureau, Fabien a récupéré le bureau de Marco qui est dans la rédaction. Enfin, je vois pas là de différence énorme.
D'accord. Et alors justement, il y a eu beaucoup de départs sur BFM. Il y a eu notamment Aurélie Casse, Bruce Toussaint, Céline Pitelet et récemment Philippe Godin. Alors comment vous l'expliquez justement?
Il y a deux choses différentes en fait. On est tous amenés, mais c'est un peu comme quand je suis parti de C'est à vous, on est tous amenés dans notre carrière à un moment donné à se dire tiens, je crois que j'ai un peu fait le tour de la question et j'ai envie d'aller voir ailleurs, et j'ai envie de voir autre chose et j'ai envie d'une nouvelle aventure. Et quand je pense à Aurélie, je pense que quand elle part pour Télé-Hebdo, c'est un peu ça le sujet. C'est que ça faisait quelques années qu'elle était à BFM, qu'elle avait envie d'autre chose. Et puis, à ce moment-là, vous avez un producteur qui passe et qui dit, moi, je te propose ça, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est normal, c'est normal, c'est logique, c'est sain. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième, pour Céline, pour Philippe, là où c'est un peu différent, c'est que vous savez, comme on a été racheté l'année dernière, on a un nouveau propriétaire. Pour les journalistes, quand vous êtes racheté, quand votre entreprise est rachetée, vous avez la possibilité de partir et d'être indemnisé. C'est un statut un statut très protecteur par rapport à ça. Et donc, des gens qui étaient là depuis pas mal de temps se disent, tiens, si je veux me lancer dans une nouvelle aventure, si je veux prendre un nouveau risque, autant que je le fasse maintenant, parce que là, je peux être indemnisé si je pars. Donc, le risque est moindre.
Oui.
Et puis pour Philippe, pour Céline, il y a peut-être la même chose, de se dire il faut faire des choses différentes dans la vie, faut voir du pays un peu, et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire.
Alors justement, BFM vient de recruter le journaliste Marc Fauvel, donc c'est pour animer une tranche d'information. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée et est-ce que vous avez déjà travaillé avec lui?
J'ai déjà travaillé avec lui, oui. Parce qu'au moment où j'étais à C'est à vous, au début où j'étais à C'est à vous, lui était venu, je crois, pendant une ou deux saisons, bosser sur Télé-Hebdo, donc le week-end.
Oui.
Donc on se croisait à ce moment-là. Et Marc, c'était un super pro. Enfin, vraiment, c'est un immense pro. Moi, j'étais très, très client, très fan de ce qu'il faisait sur France Info, de sa matinale de France Info. C'est un méga pro. Marc, donc je suis ravi. On s'est pas encore croisé parce qu'il n'est pas encore arrivé.
Oui.
Il va arriver dans quelques semaines, je crois, mais il n'est pas encore arrivé. Et c'est vraiment c'est top qu'ils viennent nous renforcer comme ça.
Alors en fait, j'imagine que vous avez fait pas mal de promos justement pour le 20h BFM. Alors est-ce que la promo ça vous plaît ou ça vous dérange?
Moi j'aime bien. Ah. J'aime bien parce qu'en fait on défend notre. Le terme est pas joli, mais on défend notre produit, quoi. Défend notre DV, on défend son équipe. Enfin, vous avez commencé par me parler de l'équipe, moi ça me plaît ça. Et puis, on a besoin de la promo pour faire connaître le rendez-vous, pour que les gens s'intéressent à nous, pour que y ait une curiosité qui naisse et que les gens se disent tiens, j'avais pas pensé à ça. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir ce que fait BFM à 20h. Oui. Donc, non, moi je suis bien avec vous, ça m'éclate, moi.
Puis c'est vrai que la promo à la radio, c'est quand même mieux.
Oui, évidemment.
Alors, je rappelle les auditeurs, et bien que du lundi au jeudi, vous présentez de 20h à 22h le 20h BFM.
Eh bien, ouais, faut venir nous voir. Faut venir nous voir dès lundi soir.
Merci beaucoup, Maxime Switek, d'avoir accepté l'interview.
Merci.
Et je vous dis peut-être à bientôt.
À bientôt.
Down to paradise, at least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, it's not far to Never Never Land. Reason to pretend, and if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, sailing takes me away to where I've always heard it.
T'as vu me quitter des yeux, pour d'autres ailleurs, vers d'autres cieux. On y parle d'endroits merveilleux, merveilleux. Mais personne n'est revenu déjà pour nous dire si c'est vrai ou pas. Tu aurais pu me dire adieu, tenir ma main encore un peu, même si là-bas on y est mieux, on y est mieux. Mais personne n'est revenu encore de cet autre côté du décor. J'ai vu t'en aller heureux pour un voyage vers le grand bleu qui ne se fait jamais à deux, jamais à deux. Mais personne n'est revenu déjà pour dire qu'on vous attend là-bas.
Grégory Lukasik sur Boomerang.
I'm running, running, running somewhere. like stuff. Would you just wave as I'm drifting on? And if I never saw you again, could I?
Sans aucun doute, l'un des meilleurs titres de Nathalie Imbruglia, c'était Shiver, sorti en 2005. Allez, il nous reste quelques minutes pour finir cette émission avec un gros tube de dance que personne n'a oublié. Voici Two Brothers on the Fourth Floor, et c'est tout simplement excellent.
Fake.
c'est bon d'entendre ce titre, Two Brothers on the Fourth Floor avec Dreams Will Come Alive. Voilà, c'est la fin de Interview et Hit. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 11h. Salut!